pour les universitaires, les chercheurs, l'écrit est très important. Nous allons voir justement en quoi l'écrit peut être non seulement une trace, mais un vecteur de circulation de l'idée avec M. Jérôme Vaillant. Bonjour M. Vaillant.
Bonjour M. Lavergne.
Donc, pour vous qui êtes responsable d'une maison d'édition dont on va dire le nom,
les presses universitaires du Septentrion.
C'est une mission, un métier, comment vous considérez la chose?
Je pense que c'est un peu un mélange des deux, une mission et un métier. Donc, quelque part, j'en ai fait une vocation à titre personnel, même si c'est le hasard qui a plutôt fait que je me suis retrouvé en octobre de l'an 2000, propulsé à cette fonction de directeur des presses universitaires du Septentrion. Ça n'était pas prévu dans ma carrière, mais mon expérience peut-être de rédacteur en chef d'une revue du nom d'Allemagne d'aujourd'hui faisait que j'avais déjà des liens avec les presses universitaires du Septentrion. Et quand il s'est agi de trouver un nouveau directeur, eh bien j'ai répondu à l'appel.
Alors, je pense que le grand public connaît les presses universitaires de France, par exemple. Comment vous démarquez de cette illustre maison ?
Alors, je pense que les presses universitaires de France, on peut dire, c'est une chose. Les presses universitaires du Septentrion, comme d'autres presses universitaires régionales, ce n'est pas obligatoirement une autre chose, mais elles n'ont sans doute pas la même réputation. Et en posant cette question, quelque part, vous attirez déjà l'attention sur le clivage Paris-Province, avec cette impression que ce qui est à Paris est toujours bien, alors que pour ce qui est des presses régionales, il faut toujours un petit peu faire la preuve de son existence, se légitimer. Il y a en France plus de 30 à 40 presses universitaires régionales, de taille inévitablement différente. Les plus importantes sont les presses universitaires de Rennes. Et dans le groupe qui suit, vous avez les presses universitaires du Mirail, les presses universitaires du Septentrion aussi, en bonne position. Cela veut dire que nous publions quelque chose comme 45 à 50 livres par an. Et que nous éditons également des revues, ce qui fait qu'au total, on a une production de l'ordre de 60 à 70 ouvrages par an, là où les presses universitaires de Rennes en ont à peu près 150.
Donc quand on dit Septentrion, ce n'est pas que le Nord-Pas-de-Calais. Souvent, on voit aussi un peu la Belgique, on voit un peu au sud ou à l'ouest du Nord-Pas-de-Calais.
Alors là, les presses universitaires du Septentrion, c'est bien le Septentrion au niveau Nord-Pas-de-Calais. Elles sont issues d'un regroupement autour des anciennes presses universitaires de Lille, d'autres universités, Lille 1 et Lille 2, l'Université du Littoral, l'Université de Valenciennes, et puis l'Institut catholique de Lille. Ce qui veut dire que l'Artois est en dehors de ces presses-là, parce qu'elles ont préféré afficher une plus grande visibilité locale en créant des presses universitaires de l'Artois. Mais on pourrait imaginer, et je pense que ce serait même souhaitable, d'avoir des presses universitaires qui couvrent effectivement la région, et pourquoi pas, comme votre question le suggérait, qui dépassent la frontière, qui la surmontent, pour aller vers Gand et vers d'autres universités belges, qu'elles soient wallonnes ou flamandes.
Donc, pour un chercheur, il est important pour faire une carrière de publier. Est-ce que votre maison d'édition correspond à cette nécessité ?
Je pense que la vocation des presses universitaires du Septentrion correspond pas seulement à la nécessité individuelle de publication, mais répond aux besoins des universités de se mettre ensemble pour permettre, par l'édition de livres papier, avec une évolution sans doute un jour vers le numérique, de contribuer à la valorisation de la recherche, des résultats de la recherche. Et le livre semble encore aujourd'hui, surtout en lettres et sciences humaines, bien placé et pas encore véritablement dépassé pour contribuer à cette diffusion de la connaissance. Et c'est une fonction que les universités se donnent, mais il est exact aussi qu'évidemment l'obligation pour les enseignants-chercheurs de publier régulièrement contribue à les pousser aussi à faire des livres ou à contribuer à des livres collectifs. Les presses universitaires du Septentrion vivent également effectivement de cet apport. Il y a les ouvrages individuels, ça peut être parfois aussi les résultats d'un ouvrage issu d'une thèse. Et puis il y a beaucoup d'ouvrages collectifs qui sont issus de colloques. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'afin que les colloques soient véritablement des livres accessibles à un public non seulement universitaire, mais je dirais à ce qu'on appelle le grand public cultivé en général, il faut que l'aspect communication à un colloque disparaisse au profit d'une communication écrite fondue dans un ensemble qui soit véritablement un livre.
Votre fonds d'ouvrage remonte à quelle année, on peut dire ?
Alors, dans la mesure où les presses universitaires du Septentrion sont le successeur direct des presses universitaires de Lille, celles-ci ont été fondées en 1971. Nous avons donc une belle ancienneté déjà et un fonds qui, au total, doit approcher maintenant les 1200 ouvrages, y compris les revues.
Alors, votre base stratégique est à Lille 3, mais vous avez une grande polyvalence, hein, puisque vous regroupez l'ensemble des universités de cette partie de région. Comment vous voyez la diffusion de ces œuvres ? Quel est votre public ?
Alors, nous avons un public dont on pense qu'on peut à peu près le cibler. Il y a des étudiants avancés, d'autres universitaires, et puis nous visons quand même au-delà des spécialistes. Le grand public cultivé, c'est-à-dire toute personne intéressée par le sujet traité dans un livre. Et nous avons œuvré ces 10 dernières années à une ouverture de nos publications. On était dans le passé plus littéraire, histoire, lettres, etc. Et depuis une dizaine d'années, nous sommes davantage ouverts vers les sciences sociales, vers les sciences politiques, la sociologie, et également vers, je dirais, la publication de résultats relevant, par exemple, de la recherche en matière d'histoire des sciences, ce qui fait que nous avons de bons contacts avec l'Université de Lille 1, par exemple, à ce niveau-là.
On peut dire globalement que votre maison d'édition est une vitrine de l'intelligence régionale ?
Alors, intelligence au sens large du terme, là où on dit aussi, en reprenant le terme latin, intelligentsia, pour ne pas dire que nous prétendons être les représentants de l'intelligence tout court. Je pense qu'il y a de l'intelligence également en dehors des presses universitaires du Septentrion, et heureusement, je dirais pour la région et pour la nation. Mais oui, nous représentons, même si des collègues peuvent publier ailleurs que chez nous, des collègues de la région peuvent publier ailleurs qu'aux presses universitaires du Septentrion, nous représentons, je pense, une belle palette de chercheurs confirmés dans leur domaine de spécialité.
Les étudiants qui font des études longues, après le master, les doctorants, éditent aussi des mémoires, hein, des ouvrages. Est-ce que vous êtes intéressé par ces ouvrages ou est-ce que pour eux c'est une autre, j'allais dire, filière d'édition ?
Alors c'est un peu plus le parcours du combattant pour un jeune doctorant. Quand il s'agit de publier sa thèse, il a différents moyens aujourd'hui. Il peut soit se rapprocher de l'atelier national de reproduction des thèses, qui a l'avantage pour lui de ne plus représenter un travail une fois la thèse terminée, puisque l'atelier national de reproduction des thèses reproduise les thèses en l'état au moment où elles ont été soutenues. Sauf que cela signifie qu'il n'y a pas eu de deuxième validation éditoriale par un éditeur. La possibilité est ensuite d'être présenté par un centre de recherche qui contribue à la publication sous la forme d'un soutien financier. Mais souvent, le problème des doctorants, c'est effectivement de ne pas être encore, je dirais, dans le circuit des centres de recherche. Et la difficulté est un peu plus grande pour eux. Mais l'intérêt que représente une validation éditoriale d'un ouvrage issu d'une thèse, c'est la réécriture de la thèse pour la libérer, pourrait-on dire, de ce qui est, ce qu'on pourrait les nommer les scories de l'exercice universitaire qu'est la thèse, et d'en faire un véritable livre susceptible d'intéresser justement un autre public que le public simplement scientifique spécialisé.
Donc la validation, donc votre équipe de validation, c'est aussi une équipe de conseillers.
Oui, lorsque une thèse nous est présentée et qu'on doit vérifier si, un, elle nous intéresse, deux, est-ce qu'elle est publiable avec un quelconque, je dirais, une quelconque chance de séduire un public assez large, nous avons en général un référent qui suit le doctorant pour lui dire comment réécrire sa thèse. Ça se fait plus ou moins facilement. Parfois, on a aussi des thèses déjà réécrites qui nous sont parvenues. Cela veut dire que le doctorant a ou bien compris de lui-même ce qu'il fallait faire pour être publié, ou bien qu'il a été un peu aussi conseillé par son directeur de thèse. L'idée est bien de permettre au maximum de très bonnes thèses, parce que entre les thèses, il y a quand même des niveaux différents. Et si je vais jusqu'au bout de ma pensée, c'est vrai qu'il y a d'abord l'intérêt scientifique et la valeur scientifique de l'ouvrage qui va compter, mais on est obligé, dans la société qui est la nôtre, de tenir compte également, je dirais, de la possibilité d'être vraiment vendu. Et si on a le sentiment qu'une thèse est beaucoup trop pointue et ne couvre qu'un créneau très limité, même si elle est très bonne, on peut très bien ne pas être amené à la publier parce que ça coûtera trop cher, en fait.
Alors, on va parler maintenant donc de l'économie de votre maison. Il y a donc les personnes qui veulent se faire publier. Est-ce qu'elles souscrivent ? Est-ce qu'elles payent quelque chose en termes de droits d'entrée ?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que je ne connais pas de presse universitaire aujourd'hui en France qui ne bénéficie pas de subventions. Ce qui veut dire clairement que les presses universitaires d'aujourd'hui, qu'elles s'appellent Septentrion ou autres, bénéficient de subventions pour pouvoir véritablement fonctionner. Et il y a un système de subventions et d'aides qui sont mises en place. L'université de Lille 3 étant, de par son apport en personnel et également en locaux, l'université de rattachement la plus engagée, les auteurs de Lille 3 n'ont pas besoin de verser de subventions. Pour les personnes qui sont originaires des autres universités partenaires de Septentrion, là, il y a un apport de l'université ou bien de leur centre de recherche. Et pour les personnes extérieures, et je veux dire qu'en ce moment, cela marche plutôt bien, en gros, nous publions 50% d'extérieurs aux universités partenaires de Septentrion, ce qui est d'ailleurs, je dirais, le signe d'une grande maturité. On ne peut pas être simplement des presses régionales. Il faut avoir la prétention d'être reconnu au niveau national et même international. Pour tout auteur extérieur, on lui demande un apport appelé aide à la publication qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Et ce ne sont pas les personnes en général qui paient ces 3 000 €. Ce sont les centres de recherche ou les universités qui estiment qu'il faut, par la publication, permettre à cette œuvre-là d'être tout simplement représentée sur le marché du livre.
Est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais participe à votre développement ?
Alors, la région et l'État ont participé pendant le dernier plan quadriennal, de façon non négligeable, au financement des presses universitaires du Septentrion. Comme nous sommes actuellement en rupture de quadriennal et que l'État n'a pas jugé bon de mettre la valorisation de la recherche par l'édition universitaire dans ses programmes, nous sommes en attente d'une réponse du PRESS, le fameux PRESS qui rassemble les universités de la région, pour pouvoir accéder aux subventions de la région qui est tout à fait prête à le faire.
Donc, votre maison d'édition, je suppose, est bien connue en interne des universités, mais peut-être qu'on peut donner des indications à nos auditeurs, si jamais ils souhaitent publier leurs ouvrages, leurs œuvres, leurs réflexions. Quels sont les domaines qui vous intéressent, qui ont plus de chances de faire l'objet d'une publication ?
Alors, si on regarde nos comités éditoriaux avec les différentes collections, si on parle également en termes, je dirais, de nombre d'ouvrages publiés dans ces différents domaines, le premier domaine qui l'emporte de loin, c'est l'histoire, de l'archéologie, je dirais, au monde contemporain. Ensuite, Septentrion a acquis une bonne réputation dans le domaine de la philosophie, de la philosophie antique à la philosophie d'aujourd'hui. Et l'ouverture de ces 10 dernières années a été vers les sciences sociales, donc la collection, par exemple, Espace politique, la collection Sociologie, sont bien notées, si j'ose dire, au niveau national, et à Paris en particulier. Ça veut dire qu'on a des comptes rendus ou qu'on a des échos venant des autres universités pour ces publications-là. Ensuite, un domaine moins, comment dire, favorable en termes financiers, ce sont les lettres françaises, la littérature française et la littérature comparée. Et puis, peut-être un peu le parent pauvre, on le voit bien, ce sont les lettres étrangères, lettres et civilisations étrangères. On se rend compte, au fait que c'est moins demandé que les autres domaines, que la France reste parfois peut-être un peu trop repliée sur elle-même et continue de ne pas s'intéresser suffisamment à ce qui se fait ailleurs.
Bon, le réalisme fera peut-être qu'un jour on devra s'y mettre.
Oui, mais vous voyez, des livres sur l'Europe, s'ils ne sont pas fortement subventionnés par ceux qui veulent qu'ils soient publiés, ont du mal également à démarrer. C'est un peu étonnant, je dirais. Il y a deux domaines qui ne se vendent pas si bien que ça, et c'est confirmé par d'autres éditeurs que les presses universitaires du Septentrion, c'est la littérature étrangère et l'Europe.
Vous voulez dire que ceux qui critiquent ou qui jugent de l'Europe ou d'autres pays du monde ne sont pas forcément ceux qui lisent le plus de quoi il est question ?
C'est possible. Je ne voudrais pas donner le sentiment que l'Europe n'intéresse pas, puisque lors du référendum sur le projet de traité constitutionnel, on a assisté à une avalanche d'ouvrages, mais des ouvrages pratiques qui analysaient le traité, qui disaient ce qu'il y avait dedans, qui disaient c'est bien ou c'est mal. On n'a pas eu de véritable approche, je dirais, à distance, avec la validation, je dirais, universitaire de ce traité-là. Les passions étaient beaucoup trop fortes.
Mais merci de contribuer à cette curiosité intellectuelle ou aux possibilités que vous offrez dans ce domaine. Est-ce qu'on peut donner un point de contact maintenant ?
Alors nous avons un site internet qui fonctionne bien, www.septentrion.com, où nous avons tous les contacts pour nous contacter directement. En tant que responsable des presses, je suis surtout porté sur le secteur éditorial, donc le service éditorial lui-même. On peut me joindre directement à mon adresse mail habituelle qu'on trouvera sur le site internet des presses universitaires du Septentrion.
Jérôme Vaillant, je vous remercie.